Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lorsque l'on vit dans un pays où le système de santé est performant, on pourrait penser que l'accès aux soins relève de l'évidence. Dans les faits, la situation peut être assez différente en fonction des populations, en fonction des problèmes de santé, également du lieu de vie ou encore des différents facteurs liés à la précarité. D'où l'importance à la fois d'identifier les populations les plus vulnérables, d'où l'importance aussi de comprendre quels sont les freins qui éloignent ces patients du soin. Et lorsque l'on fait face à des atteintes complexes, maladies chroniques, VIH-Sida, troubles en santé mentale, associés par exemple un risque de stigmatisation, comme à celui de l'abandon du traitement, eh bien, le parcours de soins peut se transformer purement et simplement en parcours d'obstacles. D'où l'importance de trouver un agent facilitateur, et c'est bien là le rôle de la médiation en santé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce nouveau métier dans le cadre précis de la prise en charge du VIH-Sida. Mais cette fonction peut être pertinente, hein, on l'a bien compris, dans tous les domaines de la santé, pour créer du lien, pour repérer, pour orienter. La médiation en santé, une pratique née du terrain, sur le terrain, pour les besoins concrets des populations vulnérables. Et c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Et nous vous proposons donc de découvrir et de comprendre cette nouvelle pratique de la médiation en santé, un facteur de réduction des inégalités sociales. En studio avec nous, on vous retrouve, professeur Olivier Bouchaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Avicenne de Bobigny et vous avez co-présidé le dernier colloque de la Société française de lutte contre le sida consacré notamment à cette question de la médiation en santé. Avec nous également, Siedionou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiateur en santé publique pour les migrants dans plusieurs hôpitaux en Île-de-France, à l'origine une formation d'infirmier au Burkina Faso. Et à la veille de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, on donnera la parole en deuxième partie d'émission à Fodé Simaga, directeur du département Sciences, Systèmes et Services pour l'ONU-Sida, l'organisation qui pointe les inégalités dangereuses qui continuent de faire obstacle à la fin de la pandémie.
Priorité santé sur RFI.
Une nouvelle fonction dans le système de santé, on devait forcément en parler. Un domaine de compétences et d'intervention qui répond à un besoin réel. Et on va donc, au cours de cette émission, essayer de découvrir ce qu'est la médiation en santé. Professeur Bouchaud, pourquoi vous, l'infectiologue, responsable d'un service dans un grand hôpital de la région parisienne, en êtes-vous venu à être le promoteur de cette pratique, à défendre vraiment cette médiation en santé ?
Eh bien, pour la raison très simple, qui est que, comme vous l'avez d'ailleurs très bien dit dans votre introduction, dans ma pratique quotidienne, et c'est vrai pour tous mes autres collègues, et de façon générale tous les soignants, y compris en dehors du champ du VIH, mais dans ma pratique quotidienne, je constate régulièrement qu'il y a des patients, pour diverses raisons, qui n'arrivent pas à faire leur parcours de soins, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils devraient faire pour être en bonne santé, c'est-à-dire venir aux consultations, aller chercher leurs médicaments, aller faire tel ou tel examen en dehors de l'hôpital ou même au sein de l'hôpital. Et ce constat amène à la conclusion simple qui est qu'il manque un intermédiaire entre le système de santé qui est parfois très complexe, très performant en France, faut le reconnaître, mais parfois très complexe, et certaines personnes qui, du fait de diverses vulnérabilités, de diverses difficultés, n'arrivent pas à faire leur parcours de soins. Et la médiation en santé a pour but de combler ce fossé, ou cette distance qu'il y a entre le système de soins et la personne qui a besoin des soins.
Alors, quand on dit que c'est un nouveau métier, c'est vrai, puisque la reconnaissance officielle, ça ne remonte qu'à 2016. Et justement, l'origine de cette médiation, professeur Bouchaud, où ça a commencé? Où est-ce que c'est né? Parce qu'en fait, les premiers médiateurs ont fait de la médiation en quelque sorte sans le savoir.
Absolument. Alors, si on veut remonter très loin, on peut dire que la médiation en santé, elle remonte dans les années 1930 en Chine, où, pour combler ce fossé justement entre les personnes très éloignées du soin, alors là, c'était géographiquement...
Je ne pensais pas qu'on allait si loin dans le temps et en géographie. Alors
si, mais après on va se rapprocher. On a inventé ce qu'on appelle maintenant les agents de santé communautaire, qui permettaient de rapprocher le système de santé des personnes les plus éloignées du soin au sens géographique, mais pas que. Si on veut revenir à une époque plus récente, en France, mais c'est également vrai en Europe et de façon générale dans les pays riches, mais c'est également vrai en Afrique, ça a redémarré beaucoup au moment de l'épidémie du VIH. Et c'est pas complètement hasard que c'est beaucoup les infectiologues qui portent ce projet de médiation en santé, parce que dans les années 90 ou à la fin des années 80, on n'avait malheureusement pas d'autre chose à proposer aux patients qu'un accompagnement, puisque malheureusement, il n'y avait aucun traitement efficace.
À l'époque, il n'y avait pas de traitement, contrairement aujourd'hui.
Exactement. Et cet accompagnement, le système de santé n'était pas habitué à le faire, n'était pas performant pour le faire. Et donc, ça a été naturellement créé. D'ailleurs, ce sont parfois les patients eux-mêmes qui se sont... regroupés, qui se sont organisés pour créer ce lien entre le système de santé et leurs besoins à eux.
Et il y a très peu de temps, lors du congrès de la Société française de lutte contre le sida, c'était le mois dernier en Seine-Saint-Denis, professeur Bougeot, vous avez lancé un appel en faveur de la création d'un millier de postes de médiateurs en santé dès l'an prochain. Pourquoi ?
Eh bien parce que, comme vous l'avez dit, la médiation en santé a été reconnue officiellement, elle existait avant de façon informelle, si je puis dire, elle a été reconnue officiellement par les autorités de santé françaises par une loi de janvier 2016. Il y a eu ce qu'on appelle un référentiel, c'est-à-dire la haute autorité de santé a décrit le métier, et puis depuis, je ne vais pas dire qu'il ne se passe rien, parce que ça serait excessif, mais il ne se passe pas grand-chose. Mmh. Et pour qu'on arrive à développer la médiation en santé dans le champ du VIH, mais comme on l'a dit tout à l'heure, dans tous les champs de la santé, puisque des personnes qui ont des difficultés sur leur parcours de soins, il y en a partout, il va bien falloir qu'on crée des postes et qu'on crée des postes pérennes. Parce qu'on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, la grosse difficulté de la médiation en santé actuellement, c'est que c'est beaucoup les associations qui embauchent des médiateurs en santé. Ces associations, elles sont très dépendantes des financements extérieurs.
C'est des contrats très courts.
Très courts. Et c'est très inconfortable pour les médiateurs en santé de savoir qu'eux-mêmes, ils sont dans la fragilité et dans une forme de vulnérabilité qui ne les aide pas à aider ceux qui le sont, les patients qui le sont aussi.
Il y a bien sûr un médiateur avec nous, c'est donc vous, hein, Sié Dionou.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous revenir sur un petit peu là le passé, mais moins loin que les années 30 en Chine? Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes devenu médiateur en santé? Ça s'est passé comment?
Alors ça, c'est une très bonne question. Comme Olivier l'a dit tout de suite, la médiation... Moi, je suis arrivé en France. J'ai travaillé beaucoup avec la Croix-Rouge française dans le VIH en Afrique. Donc, j'ai beaucoup voyagé. C'est ce qu'on appelait en son temps les centres de traitement ambulatoires. J'étais coordinateur des soins des centres de traitement.
Avec une formation de soignant.
Voilà, avec une formation de soignant. Et en son temps, comme Olivier vient de dire, en fait, il n'y avait pas de traitement en son temps. Et moi, j'étais là... je m'occupais de prescrire ce qu'on appelle les Bactrim, le cotrimoxazole en son temps pour lutter contre les infections opportunistes. Et j'avais monté un programme, on appelait en son temps la consultation d'observance. La consultation d'observance avec la Croix-Rouge française. Les choses ont évolué et on a mis en place ce qu'on appelle les programmes d'éducation thérapeutique. Je suis arrivé, c'est là. On m'a demandé pourquoi on va venir faire venir quelqu'un de la France pour faire former les Burkinabés. Et je suis venu pour me spécialiser en santé publique et spécialité éducation thérapeutique. C'est là que l'université m'a envoyé à la Pitié-Salpêtrière pour mon stage pratique. Je suis tombé dans un programme d'éducation thérapeutique et il y a plus de 50% des nouveaux cas diagnostiqué VIH était originaire d'Afrique subsaharienne. Et le personnel avait des difficultés avec ce personnel, malgré qui il y avait l'assistance sociale et tout. Eux, ils se sont rendus, quand moi j'étais là...
Il manquait un lien.
Et quand j'ai fini mon stage, je suis parti. Après, ils ont dit, mais attends, si c'est vrai que tu es venu pour te spécialiser, pour aller monter... un département de pédagogique à l'université de Ouagadougou, en IFA de médecine de Ouagadougou, mais nous, on a besoin de toi. Alors, j'étais là en tant que Burkinabé, pays des hommes intègres. Je m'en voulais de quitter le pays. Après, voilà, je continuais pour faire ma thèse. Et c'était un peu compliqué pour moi de prendre cette décision. Et quand je suis reparti, je me rappelle très bien, mon chef de service m'a accompagné à l'aéroport pour dire, si on a besoin de toi, il faut que tu y reviennes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin d'un médiateur. Il y a quelque chose, il y a ces liens qui manquent entre nous et les patients. C'est là que je suis venu occuper le poste.
Et il y avait marqué quoi sur votre poste? Parce que est-ce qu'à l'époque, médiation en santé existait?
Non, c'est en fonction de mon diplôme, spécialiste en santé publique. Et on m'a, si ma fiche de poste, je suis ingénieur.
En santé.
Voilà, ingénieur. Alors, la médiation, et j'ai travaillé aussi avec l'association SOS Hépatite qui... Je faisais un supplément de travail avec eux parce que je partais faire le dépistage, on va revenir dans les foyers, qui avaient accepté de mettre, si ma fiche de paye, médiateur de santé publique. Mais l'APHP, ça n'existe pas. L'assistant public des hôpitaux de Paris, ça n'existe pas. Mais le Corévi, Île-de-France Centre, la Pitié-Salpêtrière, Thénon, Saint-Antoine et Trousseau pour les enfants, qui est l'APHP, je suis ingénieur. En fonction de mes diplômes.
Alors là, vous venez d'énoncer les différents hôpitaux parisiens dans lesquels vous exercez. Ce qu'on comprend, professeur Bouchaud, c'est que cette médiation, elle existait dans les faits avant qu'elle ne soit formalisée par les autorités de santé publique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien de médiateurs en santé exercent dans un pays comme la France?
Alors, absolument pas. Pour la raison qu'a évoquée Sier à l'instant, c'est que la case administrative médiation en santé n'existe pas dans les institutions officielles. Dans les associations, oui, puisque effectivement une association peut très bien dire « j'embauche monsieur ou madame comme médiateur en santé », mais dans l'administration française, la case médiation en santé n'existe pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait cet appel de la Seine-Saint-Denis auquel vous avez fait allusion dans le cadre du congrès de la Société française de lutte contre le sida. C'est pour pousser les autorités à passer à l'acte après la reconnaissance de la fonction. Il faut maintenant que le métier existe pour que les directeurs d'hôpitaux, les directeurs de structures de soins, quelles qu'elles soient, puissent embaucher des gens comme médiateurs en santé et non pas sous un titre qui correspond à autre chose que leur fonction réelle, parce qu'il faut que ce métier s'implante, s'enracine à côté des autres métiers de santé qui existent dans notre système en France.
Et on va passer au concret avec une illustration tout de suite. On part pour Bobigny. Bobigny, en région parisienne, où l'association La Plage accompagne des personnes migrantes vivant avec le VIH. Et c'est dans cette ville de la Seine-Saint-Denis que notre reporter Raphaël Constant a suivi, lors d'une de ses consultations, le médiateur en santé Mamadou Timéra. Face à lui, c'est un patient d'origine sénégalaise qui est arrivé en France. Il a été diagnostiqué positif au VIH, il a 21 ans. Et il s'était rencontré à Avicenne une première fois quelques semaines auparavant.
Aujourd'hui, vous pouvez me dire grosso modo comment les choses se passent vous?
Depuis la dernière fois, les choses ça se passent très bien. Il n'y a pas de risques et après, je vois bien.
Et du côté médical, comment ça se passe aussi avec le traitement, tout ça?
Je prends les traitements comme ils font, après, voilà. Il n'y a pas de souci pour ça.
Donc vous vous en sortez bien avec ça? Il ne faut pas lâcher. Et du point de vue avec votre partenaire, comment se passent les choses, les violences, tout ça? Ça s'est calmé maintenant? Vous n'avez plus de soucis par rapport à ça?
Maintenant, ça s'est calmé, il n'y a pas de soucis pour ça. Vous ne voulez pas toujours des choses avec des amis, c'est pas quoi, il est épais à l'eau. Mais après, ça va.
Lors de la dernière fois, lorsqu'on s'était vu, vous avez aussi des difficultés pour le sommeil?
Oui, des fois. Ça peut arriver une fois par semaine ou deux fois par semaine. J'ai l'habitude.
Si aujourd'hui, on doit vous évaluer, vous allez vous estimer à quelle position entre 1 et 10, comparé à la dernière fois, lors de notre dernier entretien à l'hôpital?
On peut dire à 6. Okay.
Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration par rapport à la dernière fois?
Oui, il y a du mieux quand même. Avant, il avait le sens que je n'avais pas compris, qui me paniquait. Mais bon, depuis la dernière fois, après, avec votre conversation, j'ai compris les choses. Donc, il y a moyen de paniquer par rapport à avant.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? De quoi vous aviez besoin auprès de Mamadou?
Avant, j'avais les difficultés. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça à moi, pas les autres? Je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Et du coup, ça m'a préoccupé un peu de m'endormir la nuit. Et après, on m'a mis en contact avec lui. C'était son travail d'en parler un peu. Et du coup, je l'ai rencontré une fois. Avant, moi, j'avais ça en tête. Je vais mourir très tôt. Et après, il m'assurait que ce n'est pas le cas. Et puis aussi, faire attention, il ne faut pas contaminer les autres. Quand je fais quelque chose, les rapports avec une personne, j'ai tout le temps peur. Il ne faut pas que cette personne soit contaminée à cause de moi.
Et donc, c'est tout ce travail que vous faites ici, avec Mamadou, pour mieux comprendre voilà. cette maladie et peut-être chasser les mauvaises idées que vous avez dans la tête pour retrouver le sommeil.
Oui, c'est ça.
Moi, mon activité, c'est d'éclairer la personne, de l'aider à ne pas faire la confusion entre le VIH et le sida. Il y a deux phases. Il y a la partie infection. On a dit sur le VIH, c'est-à-dire sur le virus qui est dans le sang. Ça peut atteindre un certain stade. Si ça atteint un stade avancé, ça veut dire que ça contamine d'autres organes. Ça ouvre la porte à d'autres maladies qui profitent de l'occasion de la faiblesse de nos globules qui nous défendent. C'est eux qui vont avancer et ça devient le sida. Je l'ai dit, vous êtes à cette phase-là, donc dès que vous prenez vos médicaments, vos comprimés, vos traitements, vous allez vous en sortir et vous allez mener votre vie comme les autres.
Mamadou, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail de médiateur santé auprès des patients atteints du VIH?
Ma première mission, c'est l'accueil, pour que ces personnes-là soient rassurées. Ma deuxième mission, c'est l'accompagnement. Ça se fait en fonction des besoins. Et ces solutions-là ne viendront pas de moi, mais de lui, en essayant de puiser dans ses ressources toutes les opportunités qui s'offrent à lui. J'étends à les rendre plus autonomes. Il y a également la prévention. Comment faire pour se protéger et protéger les autres. À côté de ça, je fais également mon point fort, c'est l'aller vers. C'est le fait d'aller vers. Ça peut être dans le secteur de santé, au niveau de l'hospitalisation. Ça permet de mettre la confiance. Et je suis une sorte de relais entre les personnes, c'est-à-dire les usagers qui sont à l'extérieur et les institutions. Ça peut être les hôpitaux, la préfecture ou les centres sociaux.
Donc c'est plutôt un accompagnement psychosocial, si je comprends bien.
Voilà. Et aussi, il y a un accompagnement qui se fait sur le volet à l'accès aux soins. Je m'assure que la personne a tous ses droits ouverts. Est-ce que la personne a une pièce d'identité? Je m'assure que la personne a vraiment carte vitale ou l'AME pour que la personne puisse bénéficier et avoir son traitement comme il se doit. Alors, ça c'était les trois étapes pour lesquelles on s'était vu. Et aujourd'hui, moi, je voulais vous voir pour vous présenter ce qu'on fait. Juste pour vous dire qu'il y a ces activités qui sont là, donc n'hésitez pas. Ça peut vous aider à lutter contre votre isolement, à vous aider aussi à rencontrer d'autres personnes, à changer des idées. Au moins, j'ai un endroit où si j'ai envie de parler, je peux parler. OK. Est-ce que vous avez une question à me poser?
C'est juste que ça me fait plaisir quand même d'en parler un peu. Comme vous le savez, avant, j'étais un peu enfermé. Ça travaille beaucoup dans ma tête et un peu aussi, un peu de panique. Mais là, ça va, je me sens un peu mieux.
Pour les jours à venir, moi, je souhaiterais qu'on se voit pour essayer encore d'évaluer ce manque de sommeil surtout, parce que c'est important que vous ayez retrouvé votre rythme de sommeil. Ça va venir avec le temps. Je reste joignable à tout moment. Vous pouvez me contacter si vous avez un souci. Si vous sentez que les choses commencent à vous dépasser, il faut m'appeler pour qu'on se voit le plus tôt possible. Il ne faut jamais, jamais vous laisser emporter par les événements.
Ok, je te fais très confiance aussi de te dire les choses. Sinon, avant, moi, je n'en parlais pas de ces genres de trucs aux gens.
Merci. Ça me rassure moi aussi.
Reportage de Raphaël Constant, juste pour ses initiales à décrypter, AME, aide médicale de l'État, autrement dit, le dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Alors j'imagine, ainsi aidions-nous, que ce type de situation, ça vous est familier. Est-ce qu'il y a une journée type du médiateur de santé où aucune journée ne ressemble vraiment à une autre?
Alors aucune journée ne ressemble à l'autre parce que chaque personne est unique en genre et en nombre. Ça veut dire que, comme mon collègue vient de le dire, ça veut dire que la médiation, en fait, revient. Ça veut dire que quand la médiation n'est pas là pour résoudre les problèmes, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est prévenir aussi. N'attendez pas le monde médical, n'attendez pas que les problèmes arrivent. Mmh. C'est comme il a dit tout de suite.
Il anticipe.
Il faut anticiper. La médiation, c'est quoi? Ça veut dire que quand moi j'ai occupé voilà, on m'a proposé ce poste, je dis, bah, attends, oui, c'est quelque chose que je le faisais. La question ne se posait pas en Afrique. Et pourquoi cette question se pose ici? Et dans mes recherches, un peu en bibliographie, j'ai commencé avec SIDAction parce qu'il n'y a pas de financement. Et c'est moi-même qui écrivais les projets. Mmh. Pour que chercher le financement qu'on verse à l'APHP pour pouvoir me payer.
Vous disiez, quand vous veniez d'Afrique, il n'y avait pas besoin de cette fonction parce qu'elle était un petit peu associée à la pratique. Mais il y a quand même quelque chose qu'on constate ici qui est très différent.
Qui est très différent.
Ça s'appelle le temps. Le temps médical n'est pas le même.
Le temps a été différent. Donc c'est là que je me suis, dans mes recherches, j'ai dit, mais attends, la médiation. Et dans mes recherches, je suis tombé sur une définition de la médiation. C'est comme Olivier l'a dit, ça existait depuis les années 1930. Et dans mes recherches, je suis tombé sur au Canada, on les appelait des navigateurs.
On comprend bien qu'il faut aller aussi entre les obstacles parfois.
Les navigateurs, c'était des gens qui, il n'y avait même pas le VIH en temps, c'était les addictos et il fallait essayer de faire ce lien avec cette population qui était éloignée de soi, qui était addict et on les appelait navigateurs. Et j'ai trouvé cette définition qui n'était pas mal, que le médiateur, la médiation, c'est un processus de création de liens, de gestion d'incompréhension par un tiers personne qui est impartial. Ça veut dire que la personne est interface entre deux acteurs, les soignants et les soignés.
Aussi une capacité de se mettre à la place de l'autre.
La place de l'autre, à la place du soignant, à la place du soigné. Et le travail, le médiateur a deux rôles. C'est d'accompagner les patients, comme lui l'a dit, compréhension de la maladie, du traitement en prise en compte de ses cultures, représentations, croyances et difficultés au quotidien. Mmh. Ils viennent d'un pays où le système de soins n'est pas la même qu'ici. Et les accompagner, comment il faut les expliquer. Et encore accompagner les soignants. Mmh. Et souvent, je me suis rendu compte que le patient n'avait pas besoin de médiation. C'est le docteur, c'est l'infirmier qui avait besoin de médiation. Mmh.
Pour expliquer les représentations aussi de la personne.
Le patient, ce n'est pas parce qu'il vient de l'Afrique qu'il comprend bien les choses. Mmh. C'est le docteur, c'est l'infirmier, c'est le professeur qui doit s'adapter. Le monsieur, il comprend très bien.
Et oublier certains de ses préjugés.
Exactement.
Ça, on l'entend très souvent.
Surtout en santé sexuelle.
Surtout en santé sexuelle. Professeur Bouchot, on parle du VIH là, mais évidemment, la médiation en santé, ça vaut pour énormément d'autres problématiques de santé. On peut même dire pour tous les problèmes de santé.
Absolument, parce que partout, il y a des obstacles aux soins. Et interroger n'importe quel médecin ou n'importe quel prestataire de soins, infirmier, kinésithérapeute, etc., ils vous diront tous que régulièrement, ils connaissent des personnes dont ils sont censés s'occuper qui n'arrivent pas à faire leur parcours de soins. Mmh. Par exemple, en gériatrie, combien de personnes âgées n'arrivent pas à faire leur parcours de soins? Il faut être bien conscient que maintenant, pour prendre un rendez-vous, les secrétariats sont très difficiles d'accès. Donc maintenant, c'est par les outils numériques, c'est par Doctolib notamment, ou d'autres systèmes comme ça, ou par le téléphone. Mais surtout, ce qu'on appelle le gap numérique, donc cette difficulté que certaines personnes ont d'utiliser Internet pour prendre des rendez-vous, font que beaucoup de personnes âgées ne peuvent plus, ne savent plus prendre rendez-vous. S'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas d'amis, etc., qui peuvent le faire à leur place, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont très isolés, notamment des personnes âgées, qui va prendre les rendez-vous à leur place? Personne. Et donc, il y a un boulevard, si je puis dire, et ça, il faut que les autorités de santé le comprennent, dans la gériatrie, mais dans tous les autres domaines de la santé. Et ce qu'on va nous dire, c'est « mais oui, mais ça, qui va payer ça ?» Mais c'est très simple. C'est que tous ces échecs dans les parcours de santé qui sont faits, ça coûte très cher à la collectivité, parce que les retards de soins liés à ces obstacles font que les maladies sont plus graves, qu'elles coûtent beaucoup plus cher. Et si on réduisait ces difficultés sur les parcours de soins et sur ces obstacles sur les parcours de soins, ça fait une manne financière considérable qui paiera largement le coût représenté par ces postes de médiateurs et médiatrices en santé.
Alors on va reparler des populations vulnérables, des pertes de chance, la médiation en santé, on l'a bien compris, notre sujet du jour. On va se retrouver, si est Dieu nous, professeur Bouchot, juste après le duo M égale Anne Dorsey avec « À toi ».
À toi. quelquefois. À celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois, à moi, au temps que je passais à te chercher, aux qualités dont tu te manques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de paladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, au souvenir que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amants qui sont comme nous, à toi.
Priorité santé sur RFI, on parle de la médiation en santé. Nouveau métier pour faciliter l'accès au système de soins, toujours en compagnie d'un infirmier devenu médiateur, Sied Younou, du professeur Olivier Bouchaud, responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Avicenne de Bobigny. Est-ce qu'on a, tout à l'heure on parlait de ce renoncement aux soins, professeur Bouchaud, est-ce qu'on a une idée d'ensemble, une vision pour ce qui se passe en France, pour savoir quelle proportion de la population est concernée, qui ne va pas bien se soigner dans un pays comme la France ?
Alors non, et pour une raison très simple, c'est que par définition, les personnes qu'on ne voit pas dans les services de soins ou qu'on voit avec retard
échappent aux statistiques.
Mais ce que nous, on constate au quotidien, c'est que c'est fréquent. Alors je vais vous dire un patient sur 10 ou deux patients sur 10, tout dépend de quelle vulnérabilité on parle, mais c'est vraiment du quotidien, c'est vraiment fréquent. Et au final, sur l'ensemble d'un pays comme la France, pour une population comme celle de la France, ça représente un nombre de personnes très important. Il y a un volume financier, je reviens là-dessus parce que je crois que c'est très important, un volume financier de pertes financières, et je ne parle pas de la perte individuelle en termes de santé, hein, mais
au niveau de la collectivité.
Le problème de financement se pose, c'est une perte financière colossale pour la collectivité.
Justement, parce qu'on insiste très souvent dans cette émission, quand on échange avec les auditrices et les auditeurs, sur aller consulter, il ne faut pas qu'il y ait un retard dans la prise en charge avec cette rupture de soins, ce renoncement qui peut coûter cher. Et vous vouliez revenir sur cette question, Sied Younou, pour dire que vraiment, à terme, ça coûte cher au système de soins de justement renoncer à aller voir le médecin, et que dans ce cas-là, un poste de médiateur en santé, certains se posent la question, qui va payer ? Finalement, quand on finance ces postes, on fait aussi des économies pour toute la collectivité.
Oui, effectivement, on fait de l'économie. Par exemple, quand moi j'ai commencé, les patients disent « Waouh, c'est très bien !» Le médiateur, on a quelqu'un qui est là maintenant, qui nous écoute, qui prend en compte nos cultures, représentations, nos difficultés dans notre prise en charge. Les soignants disent « Oui, on a quelqu'un qui est là, mais maintenant, il fallait évaluer. » C'est-à-dire qu'au départ, on a évalué, on a vu qu'avec la médiation, on a pris 210 patients à un moment donné. Au début, 53% avaient une charge qui n'était pas indétectable.
Alors là, on parle du VIH, des tests pour voir où en était la charge virale.
La charge virale. Et 6 mois après, avec la médiation, on est monté à 71%. Ça veut dire que s'il y a la médiation, la charge virale est indétectable, comme le professeur Olivier vient de le dire, on contamine, moins, donc il y a moins de contamination, ça coûte moins cher à la collectivité. Et on a évalué aussi, il y avait moins de consultations d'urgence, parce que la médiation était là pour expliquer, et il y avait moins d'hospitalisation.
C'est normal, puisque comme c'est indétectable, il y a moins de maladies opportunistes, on va moins à l'hôpital.
Moins de consultations, et c'était dit à l'accompagnement de la médiation en santé publique.
Tout simplement parce que vous permettez aux personnes de rester en meilleure santé.
Voilà. Et on a fait des études qui trouvaient que les gens, à peur de la médiation, comprenaient mieux la maladie, le traitement, les termes médicaux et tout ça. Et tout ça, ça contribue à diminuer le coût de prise en charge pour les hôpitaux et tout ça. Et les gens ont la santé, ils peuvent aller travailler et cotiser aussi.
Et s'occuper de la famille accessoirement. C'est, voilà, Dieu-nous, important de le dire. Hein. Vous n'êtes pas simplement des interprètes. Il y a des gens qui peuvent se dire, bah oui, ils sont là pour faire le lien avec ça. Ça va au-delà de ça. On l'a entendu tout à l'heure, d'ailleurs, dans le reportage de Raphaël Constant, cet appui psychologique. On sent aussi que vous êtes là quand la personne vulnérable a, comme on dit trivialement, un petit coup de mou, un petit moment de déprime, voire de grosse déprime. Quand on a le VIH, ce n'est pas simple, très, très loin de là. Vous êtes là aussi pour, peut-être pas directement tenir la main, mais en tout cas, aider et accompagner.
Ben oui, notre rôle, c'est ça. C'est surtout que la personne se rend compte que vous avez la même culture que la personne et que vous comprenez sa situation et que les consultations médicales, ça ne prend que 15 minutes.
C'est ça.
Et que nous, on a le temps, une heure de temps, se poser avec la personne. De ne pas parler seulement de charge virale, de ne pas parler seulement de CD4, et de prendre la personne en globalité. Parce que c'est ça le grand problème.
Je ne suis pas un bilan biologique.
C'est ça. C'est-à-dire qu'une dame qui vient me voir, qui dit que j'ai 1m90, j'ai 90 kilos, mon médecin, infectiologue, me réduit à une charge virale. Et j'étais obligé d'aller voir le médecin qui dit, elle n'est pas sérieuse, elle ne prend pas ses médicaments. Et la dame me dit, mais elle ne sait même pas comment j'ai été infectée. Qu'est-ce que je vis?
Donc, c'est vraiment une dimension de complémentarité, professeur Olivier Bouchaud, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Vous n'avez pas une heure pour recevoir chaque patient à l'hôpital. C'est impossible à gérer. Donc, il y a ce travail de concert. Et pour vous, c'est une véritable aide dans votre pratique.
C'est une aide extrêmement importante. Alors, comme vous l'avez bien dit, on n'a pas énormément de temps. Et puis, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que, et je ne fais pas du dénigrement des médecins, étant médecin, je serais mal placé pour le faire, mais les médecins ne sont pas toujours les meilleurs pour expliquer les choses, parce qu'on a trop tendance à utiliser des termes trop techniques. Il y a la différence de, entre guillemets, niveau social entre certains patients et le statut social du médecin qui fait que certains patients sont un peu tétanisés à côté du médecin, alors que même avec les mêmes mots, ce que va expliquer le médiateur en santé sera beaucoup plus compréhensible. Tout à l'heure, dans le reportage que vous avez fait passer, Mamadou, là, le médiateur en santé, expliquait les choses de façon extrêmement limpide. Et je suis sûr qu'un médecin n'aurait pas su utiliser des mots aussi simples et aussi clairs. Alors ça, c'est la dimension explication, c'est la dimension psychologique. Mais des obstacles aux soins peuvent être de nature extrêmement différente. Et c'est là où il y a toute la difficulté du métier de médiateur en santé, qui est d'être compétent sur beaucoup, beaucoup de domaines.
Alors, un métier qui passe aussi par une formation universitaire qui a été créée en 2017. Je crois que vous en êtes même à l'origine, professeur Bouchaud.
Oui, alors dès que la loi de santé de 2016 est sortie, je me suis précipité pour créer ce diplôme universitaire à l'université Sorbonne-Paris-Nord, parce que je voulais, et avec les collègues avec qui on a monté ça, on voulait proposer une espèce de référentiel de formation d'un niveau suffisamment élevé pour qu'il n'y ait pas cette tentation de dire la médiation en santé, ok, mais ça sera un petit peu le prolétariat des métiers de santé. Ça sera très bien pour accompagner les personnes à la sécu, à la préfecture, etc. Alors que le métier de médiateur en santé est un métier extrêmement complexe qui nécessite des vraies compétences, à la fois techniques, mais à la fois des compétences humaines, de la communication, et ça s'apprend. Il y a des gens qui, naturellement, sont portés à aller vers les autres, mais au-delà de ça, il y a un aspect technique, et ça nécessite une vraie formation. Et donc c'est pour ça qu'on a formé, monté cet enseignement universitaire qui a vocation à devenir un petit peu plus tard un enseignement professionnalisant.
Ce qui n'est pas le cas en ce moment. C'est vrai que si Dieu nous, on imagine des situations, quand on parle de grande précarité, de vulnérabilité, il faut savoir réagir face à des situations qui peuvent être parfois très compliquées. Est-ce que comme ça, vous avez des exemples à citer, un peu comme une pelote de laine tout emmêlée, il faut savoir tirer les fils pour finalement pouvoir faire le bon tricot pour que la personne puisse aller voir le médecin et que tout se passe bien au final.
Il y a des situations très très compliquées. Je profite même remercier le professeur Olivier Bouchot. Je fais partie des enseignants vacataires dans ce diplôme universitaire à Paris Nord, Paris Sorbonne Nord. Il y a des situations très 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 compliquées et que il y a plein de situations. Par exemple, on peut prendre un cas clinique que je présente les cas cliniques auprès de mes collègues, les soignants, et je fais venir aussi des patients. On présente les cas cliniques pour voir comment les soignants se positionnent, comment les patients se positionnent, pour que chacun d'eux essaye de voir. Alors, les soignants doivent faire de l'effort. Les patients aussi doivent faire de l'effort pour que les deux... La médiation, c'est quoi?
Un ajustement.
Un ajustement, c'est comme un proverbe Wolof le dit, un Sénégalais. Il n'y a jamais deux personnes qui ne s'entendent pas.
Il faudrait rappeler à pas mal de monde sur la planète qu'il n'y a jamais deux personnes qui s'entendent pas.
Qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas. Ouais. Il y a toujours deux personnes qui n'ont pas discuté.
Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors là,
et la
je
médiation,
cautionne ce proverbe Wolof.
Voilà, et la médiation est là pour crier, avoir que les deux acteurs arrivent à s'asseoir, discuter ensemble. Je vous donne un cas clinique, une dame qui vient, Madame D ou Madame X, qui vient de la Côte d'Ivoire, et qui est arrivée, qui vit très 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 bien, et paf, qui est dépistée séropositif à Avicenne. Et il a été hospitalisé et il avait une pneumonie excavée. Et excavée, les internes, en expliquant à Avicenne, ont dit « Non, madame, vous avez des trous dans votre poumon. »
Oula.
Alors, elle dit « Mais des trous dans le poumon d'un humain, c'est anodin. Ça, c'est pas anodin. Et paf, derrière, on dit « Madame, vous avez le VIH. » Et elle s'est rappelée que lors des cérémonies, il y a un sage qui lui avait dit « Madame, vous allez avoir la chance de voyager, de prospérer, mais les choses vont vous rattraper, vous allez descendre toujours en bas. » Et quand on a dit « Vous avez des trous dans votre poumon, vous avez le VIH », elle a dit « Ah ben oui !»
Pour elle, c'était l'interprétation de ce qu'on lui avait prédit.
Qu'on lui avait dit il y a 15 ans, 20 ans, quand elle était en Côte d'Ivoire. Donc, elle a dit le VIH, papata, elle ne prenait pas bien les médicaments, elle a changé d'hôpital en hôpital, elle a été hospitalisée à la Pitié. Et finalement, moi, je l'ai récupérée à Thénon, à l'hôpital Thénon. Et elle ne venait pas à ses rendez-vous.
Parce qu'elle pensait finalement que c'était une forme de malédiction et que ce n'était pas une maladie.
Non, elle était envoûtée, c'était la sorcellerie, c'est ce qu'on lui avait dit. Et elle venait, même si elle ne vient pas à ses rendez-vous, même si elle venait, et devant le médecin, elle dit « Docteur, vous me voyez, je vis bien, je ne prends pas les médicaments, je n'ai même pas le temps. Voilà, allons-y vite. » Pourtant, elle est arrivée. Et même son médecin venait me voir. Si je n'en peux plus, est-ce que tu peux récupérer ces patients? Je n'en peux plus. On trouve un autre infectiologue. Je dis non, ce n'est pas la peine. Elle va chercher d'infectiologue. Donc, je l'ai récupérée. On a travaillé ensemble. Elle avait déjà planifié un billet pour aller se faire désenvoûter en Côte d'Ivoire. Et on a récupéré un peu. Et finalement,
maintenant, elle est soignée.
Elle est soignée. Elle ne veut même plus aller en Côte d'Ivoire. Le CD4 ont monté, la charge virale a été indétectable. Elle dit « Ah ben oui, je ne comprenais pas.
» On imagine qu'il a fallu du temps aussi pour la convaincre.
Il a
fallu un an. Et justement, là, il nous reste peu de temps. Une histoire peut-être un peu plus courte. En tout cas, ce qu'en pensent les bénéficiaires. Est-ce qu'il y a des personnes, justement, qui étaient en rupture de soins, en renoncement, qui étaient un petit peu au bout du rouleau, aujourd'hui, qui disent « Finalement, heureusement que vous étiez là. »
Il y en a tous les jours.
Oui, je m'attendais à la réponse.
Il y en a tous les jours que, heureusement, si elle est là. Et même hier, j'étais. C'est-à-dire qu'on a concentré un peu la médiation avec le VIH. J'étais avec une dame hier qui a une tuberculose. On m'a fait. Je l'ai reçu à ma consultation, qui ne comprenait pas grand-chose. Qui dit tuberculose, c'est quoi? Je l'ai récupéré en Djula, en Bambara. Je lui ai expliqué. Ah, ben oui, mon fils, j'ai entendu la tuberculose. J'ai traduit Sorsoronoubé. C'est-à-dire que c'est la toux blanche en son temps. Il dit, ben, c'est les peules. Quand j'étais... Elle est née en 64. Mm-mm. Elle dit, quand elle était petite, la tuberculose, c'était la maladie des peules qui élevait les bœufs en son temps. Et effectivement, l'histoire de la tuberculose, c'est ceux qui côtoyaient les animaux et tout ça. Mm. Et quand je l'ai expliqué, la dame, elle est rayonnante maintenant. Elle commence à prendre ses traitements. Elle dit, ah ben oui, donc...
Cette maladie, ça a finalement pris une part réelle dans son histoire. Elle Exactement. Existait dans son histoire.
Et voilà, c'est
et
ça.
Elle se l'est réappropriée.
Et d'ailleurs, elle est... en dehors même du VIH, du diabète, il ne faut pas limiter la médiation seulement. Et je fais partie du membre du jury de la fonction publique. Et il y a des médiations partout, même à la RATP. Oui. Et je valide les gens.
Dans toutes les administrations publiques.
Et c'est ça le problème des médiateurs.
Alors, c'est vrai qu'on peut discuter de tout, mais hélas, le temps tourne aussi pour nous. Je vais me tourner pour une dernière question vers le professeur Bouchot. On a dit que les bénéficiaires étaient ravis de ces médiations. Qu'est-ce qu'en pensent les médecins? Ils ne disent pas qu'est-ce que c'est qu'un petit peu ces assistantes sociales bis qui viennent dans nos services ou à l'inverse. Enfin, on avait vraiment besoin de vous.
Alors, je pense que beaucoup de médecins... commence à percevoir le bénéfice pour eux de la médiation en santé, mais c'est le tout début parce qu'on en parle depuis assez peu de temps. De plus en plus, ils vont prendre conscience de ce que ça va leur apporter parce que ça apporte aux patients et que ça facilite, ça fluidifie les choses. Il faut quand même s'attendre pendant une dizaine d'années. On l'a connu avec d'autres nouveaux métiers, comme les infirmières d'éducation thérapeutique ou il y a beaucoup plus longtemps les assistantes sociales. Il faut s'attendre pendant une dizaine d'années à ce qu'il y ait des petits heurts. Puisque les médiateurs en santé vont être en interface avec tous les autres métiers de santé et dont certains pourraient craindre, à tort, mais pourraient craindre que les médiateurs en santé vont prendre leur place, ce qui est complètement faux. Mais voilà, il y aura une petite difficulté et une fois que le métier sera complètement intégré, tout le monde va en percevoir le bénéfice.
Et on l'a bien compris grâce à cette émission. Merci beaucoup tous les deux, professeur Bouchot, Siedionou, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Journée mondiale de lutte contre le sida, c'est demain 1er décembre l'occasion pour l'ONU Sida de faire un état des lieux de l'épidémie à l'échelle internationale avec des objectifs soulignés, rappelés à l'occasion des différentes conférences qui rassemblent chercheurs, soignants, sociétés civiles. On en parle avec vous, Fodessi Maga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du département Sciences, Systèmes et Services pour l'ONU SIDA. Ce constat, c'est celui bien des inégalités qui restent importantes à l'échelle planétaire en termes d'objectifs, de résultats de la lutte contre le SIDA. On parle de quelles inégalités au juste, Fodessi Maga?
Bonjour madame, merci de nous donner la parole à ONU SIDA. Écoutez, comme vous le savez, comme on l'a déjà démontré, c'est pour ça qu'on a appelé nos derniers rapports « En danger ». Malheureusement, on n'a pas atteint les objectifs au niveau mondial, avec des disparités suivant les régions et même dans certains pays. Et le constat, quand on analyse l'ensemble des données, c'est vraiment qu'il y a des inégalités, comme vous le disiez. Alors d'abord, des inégalités liées au genre. Il faut savoir, par exemple, qu'en Afrique subsaharienne, sur 4 nouvelles infections, 3 sont pour les jeunes filles et les jeunes femmes, et 1 pour les garçons et les hommes. Donc, il y a les inégalités liées au genre, il y a les inégalités qui sont liées aux populations marginalisées de force par la stigmatisation et la criminalisation. Dans notre jargon, on appelle ça peut-être les populations clés, mais c'est les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les professionnels du sexe, les injecteurs de drogue, les prisonniers, les transgenres. Il faut se rendre compte que en moyenne, en global, un homme ayant un rapport sexuel avec un homme a 20 fois plus de risques d'être infecté au VIH qu'un homme hétérosexuel. Pour les injecteurs de drogue, c'est 35 fois plus, vous voyez. Et ça, c'est lié aux lois qui criminalisent. Il y en a encore 68 pays qui criminalisent les relations de même sexe. Et c'est aussi lié à ce qu'on appelle la stigmatisation et la discrimination, qui est plutôt sociétale. C'est pour ça qu'on appelle tous les leaders, les leaders politiques, bien sûr, mais aussi traditionnels, religieux, les personnes influentes au niveau de la société, de vraiment aider à déstigmatiser les populations. Et on assiste de plus en plus, madame, à une auto-stigmatisation. Et le résultat de tout ça, c'est que ces personnes ont peur d'avoir accès, d'aller au service, de joindre les services. Vous voyez, donc,
en même temps, cette auto-stigmatisation, comme vous dites, elle est justifiée par la répression qui les menace, le regard des autres, le jugement des autres, la mise au ban. On comprend en tout cas que, au niveau local, quand il y a la loi qui est contre nous, il y a vraiment l'importance de la société civile et de la communauté pour aider ces personnes à faire face, Fodessi Maga.
Oui, bien sûr, et c'est pour ça que je me réjouis d'avoir écouté le professeur Bougeot et M. Sier, parce que vraiment, on est convaincu, on a la preuve, on a les évidences qui prouvent que la réponse communautaire, il y a différents noms, mais la réponse communautaire, la médiation, est une des solutions. Comment voulez-vous atteindre les populations les plus vulnérables, les plus marginalisées, avec des systèmes de santé en moyenne qui sont ou dépassés, dans le cadre des pays occidentaux, on voit bien le problème, ça a été expliqué précédemment dans votre émission, ou structurellement faible. Donc, qui va aller joindre la professionnelle du sexe sur son lieu de travail et qui se cache, ou en tout cas qui préfère se protéger en restant le plus discrète possible. C'est le communautaire.
C'est le communautaire. Tout à l'heure, vous parliez de ces objectifs à atteindre, qui sont encore loin, et des inégalités. C'est vrai qu'il y a un sujet qui rejoint les deux. On pense à la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il y a des zones du globe où on va dire, eh bien, on a tellement bien progressé sur ce plan, et puis il y a d'autres régions, en particulier dans la zone Afrique, où il y a encore tellement à faire.
Ben, c'est la troisième grosse inégalité, c'est la différence entre les adultes et les enfants, malgré les progrès, vous voyez, pour vous donner un chiffre sans vous abreuver, alors que les enfants ne représentent que 4% globalement des personnes vivant avec le VIH, ils représentent 15% de la mortalité.
Très vulnérable.
La moyenne du traitement adulte est de, disons, 80%, celle des enfants est à peine la moitié. C'est un scandale. On a tous les éléments scientifiques, les traitements, c'est une question de volonté politique et d'organisation. C'est pour ça que nous avons lancé récemment l'Alliance pour mettre fin aux inégalités de traitement pédiatrique.
Il y a les mots, Fodessi Maga, mais justement de la réponse des pouvoirs publics et des politiques, c'est quoi aujourd'hui la tonalité? On regarde ailleurs, on pense au Covid, on pense aux risques infectieux, on va dire, autres que le VIH, ou on s'y intéresse encore?
Non, c'est notre job de faire en sorte, mais la tendance naturelle, quand vous avez la guerre et les conséquences de la guerre sur l'alimentation, sur le cours des matières premières, la crise financière que ça induit pour les pays les plus vulnérables ou les plus pauvres, quand vous avez effectivement les conséquences du Covid, la tendance est que les priorités sont ailleurs.
Et c'est bien dommage, c'est pour ça qu'on en parle. Mobilisation à l'occasion de cette journée du 1er décembre pour la lutte contre le sida. Merci beaucoup, Fodessi Maga. Et merci à toute l'équipe qui prépare et réalise Priorité Santé. Demain, on va retrouver en direct le docteur Catherine Solano, sexologue. Question des auditeurs sur la sexualité au fil de la vie au 33 84 22 75 75. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles.